sommes jeudi 11 août 2022. Merci d'écouter les programmes de Studio Kalungu. Le journal en français, c'est tout de suite. Au sommaire, à ce jour 11 août, le bureau du Comité international de la Croix-Rouge du Niger commémore la signature des conventions de Genève de 1949. À cette occasion, l'accent est mis sur la protection de l'environnement en temps de conflits armés. 27 personnes décédées et plus de 57 000 personnes affectées, c'est le bilan des inondations enregistrées depuis juillet dans 7 des 8 régions du Niger, un bilan dressé par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA. Dans le magazine de ce journal, nous parlerons du sida cordifolia, une herbe qui impacte négativement sur l'élevage de la région de Maradi. Bonsoir à tous. Au micro, Nafis Adam Sirfo. Le bureau du Comité international de la Croix-Rouge CICR du Niger célèbre ce 11 août les 73 ans de la signature des conventions de Genève qui sont devenues aujourd'hui les textes de base du droit international humanitaire. Le thème choisi est la protection de l'environnement en temps de conflits armés. François Moreillon, chef de délégation du CICR Niger, explique le choix du thème au micro de Ali Tachsir Ahmed.
Je pense que la question de l'environnement est devenu aujourd'hui central. Donc il était quelque part une évidence, surtout dans un pays comme le Niger, qui se situe dans le Sahel, qui est lourdement affecté par les effets du changement climatique, d'aborder une telle thématique. De plus, il est avéré que les liens entre le changement climatique et les conflits sont très imbriqués, avec des effets néfastes qui se renforcent. Donc le thème d'aujourd'hui avait pour objectif d'approfondir la réflexion sur ces thématiques. Enfin, le droit international humanitaire impose certaines règles aussi de protection de l'environnement dans les situations de conflit, parce que l'usage de certaines armes peuvent avoir des effets extrêmement graves sur l'environnement, par exemple la contamination par les engins non explosés, les mines, etc. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent avoir des impacts durables sur notre environnement.
Les fortes précipitations enregistrées en début de semaine dans la ville d'Agadez ont causé des dégâts sur les infrastructures de la commune. Les autorités communales ont effectué hier des visites à terrain afin de constater le niveau des intempéries et les solutions adéquates à trouver. Al-Mahdi Mohamed, chargé de communication de la commune d'Agadez, est au micro d'Anissé Karim.
La situation est un peu critique derrière l'inspection communale Agadez 1. Là, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis la réalisation des ouvrages d'Agadez Sokni, le passage de l'eau n'a pas été arrangé pour que l'eau puisse passer. Il y a toujours les eaux qui sont là, donc il faut qu'on intervienne pour les évacuer. Donc à ce niveau aussi, des propositions ont été faites au niveau des goudrons pour évacuer les eaux. En saison pluvieuse, l'eau elle est toujours stagnée sur les goudrons. Donc là aussi, comme mesure, c'est d'irradier les goudrons pour permettre à l'eau de se déverser dans les caniveaux d'en face. Il y a un caniveau qui est bouché, donc on va déterrer les tuyaux et pour les remplacer, pour permettre à l'eau de passer. Il y a des endroits qui doivent être remblayés. On va utiliser de la latérite pour permettre à l'eau de passer normalement.
À Dosso, cette année, pendant la présente saison pluvieuse entre juillet et août, la région a enregistré environ 834 cas d'inondation. Abdoulaye Ali, coordinateur régional de l'action humanitaire et de gestion des catastrophes, détaille au micro de Nana Hadiza Hassan.
La région de Dosso, pour les données qui sont actuellement avec nous, on a 834 ménages inondés. Il y a 940 maisons effondrées. Il y a 4 cas de noyade. Une bonne partie des aires de culture, c'est-à-dire 266 hectares inondés. Si vous prenez la commune de Guéchémé, la commune de Djundjou, Krakara, ce sont des zones inondables. Donc, tout village qui se situe sur ces dalol ou bien Kori, ou bien situé sur les bords des fleuves, pour éviter toute inondation, doivent se dégrapir, surtout à ce mois d'août où vraiment il pleut abondamment dans ce pays.
Et dans un rapport publié le 8 août par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Tchad, 27 personnes sont décédées et plus de 57 000 personnes ont été affectées par les inondations enregistrées depuis juillet dans 7 des 8 régions du Niger. Les détails avec Rafika Taher.
Selon le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, en date du 8 août, plus de 57 000 personnes sont sinistrées et 27 décès enregistrés sur l'ensemble du Niger. Le bilan des inondations fait aussi état de plus de 6 000 maisons effondrées. Selon les acteurs impliqués dans la préparation aux inondations, plus de 350 000 personnes pourraient être touchées par les inondations cette année sur la période allant de juin à septembre 2022. Les rapports indiquent aussi une intensification des conditions météorologique de la zone du fleuve Niger dans les régions de Maradi, Zender et Diffa qui pourraient entraîner de fortes précipitations. Le mois d'août devrait également être très pluvieux et le centre opérationnel de veille d'alerte et de gestion de crise Covagec invite les populations à redoubler de vigilance et à prendre des mesures pour prévenir les pertes en vies humaines. Les dommages sur les biens, les infrastructures et l'environnement indiquent le rapport d'Ocha.
La suite de ce journal, l'organisation de la société civile Tournons la page rejette la décision du gouvernement de revoir à la hausse le prix du gasoil au Niger. Elle a fait savoir hier soir dans une déclaration rendue publique. Ismaël Haldi, membre de l'organisation, est au micro de Sekine Gazibo.
Dans cette déclaration, on a exhorté le gouvernement à revoir sa décision. Autre aspect, on a demandé aussi un audit sur la gestion du pétrole et dans les entreprises telles que Soraz et Sonitep. Mieux, on a aussi invité les populations à créer toutes les conditions pour s'aligner derrière toute initiative louable tendant à mettre en avant l'intérêt supérieur du peuple nigérien. Nous sommes catégoriquement contre cette augmentation et nous sommes en train de réfléchir sur la méthode de lutte qu'il faut engager. Pour le faire comprendre clairement au gouvernement. On ne peut aucunement accepter que sous des motifs fallacieux, le gouvernement se décide un bon matin de faire endurer aux populations une telle cherté de la vie.
Importance de la transparence et de la redevabilité dans la décentralisation, c'est le thème d'un débat public organisé ce jour à Agadez par la Maison de la Presse avec le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD. Il vise à promouvoir la bonne gouvernance et la redevabilité dans le cadre de la gestion des communes qui bénéficient des retombées de l'exploitation minière ou pétrolière. Ibrahim Harouna, président de la Maison de la Presse, donne des détails au micro de Moussa Maman.
C'est un débat qui rentre dans le cadre d'un partenariat avec le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD qui vise à promouvoir la bonne gouvernance, la redevabilité dans le cadre de la gestion de nos communes, surtout les communes qui bénéficient des retombées des exploitations minières et pétrolières. Comment renforcer la démocratie à la base? Comment assurer les dialogues entre les différents acteurs au niveau des communes et faire en sorte que les intérêts des différentes couches socioprofessionnelles au niveau des communes soient pris en compte? Et aussi, c'est une opportunité pour tous les acteurs de s'exprimer sur le programme qui sont élaborés au niveau de communes et de leur permettre de corriger si certains intérêts ne sont pas pris en compte ou bien s'il y a des dispositions qui n'ont pas été prises en compte dans le cadre par exemple de la lutte contre la corruption ou bien de la transparence ou bien même de l'accès à l'information des citoyens. Donc c'est une occasion pour les citoyens d'interpeller leurs responsables communaux et pour les acteurs de la société civile aussi de dire leur appui dans ce sens-là et améliorer la gouvernance locale.
60 jeunes leaders de la commune de Tessawa sont en atelier de formation sur les méfaits de la consommation des stupéfiants. La formation a débuté hier et prendra fin samedi. Adam Amadou, président du conseil communal de la jeunesse de Tessawa, explique le pourquoi de cette formation au micro de Seydou Sanké.
On va former les jeunes sur les méfaits de la consommation et de la vente de la drogue. Nous avons choisi cet aspect vu qu'un jeune peut prendre de la drogue et aller voler, tuer ou poser d'autres mauvais actes. Les jeunes ne sont plus nombreux car nous représentons près de 60% de la population. Si nous laissons ce phénomène continuer, il va dégénérer un problème sérieux au sein de notre société à l'avenir. Au lieu donc de faire recours aux parents pour qu'ils conseillent leurs enfants, nous avons choisi de faire cela entre nous jeunes. Nous avons donc sélectionné quelques jeunes de la ville de Tessawa, des 10 villages et 10 quartiers, soit 3 représentants par village et par quartier, 2 garçons et une fille. À la fin de cette formation, nous allons les suivre, voir s'ils ont bien compris le message et qu'ils vont le transmettre aux autres jeunes. Et après, nous allons continuer la même formation pour les jeunes des zones rurales.
L'actualité est toujours en région en cette période de saison des pluies qui rime avec le développement du paludisme. L'UNICEF a décidé de la distribution des moustiquaires dans les écoles primaires de Chirozirine pour prévenir la maladie. Cette activité débutera demain pour prendre fin samedi. Elle sera précédée d'une formation des responsables des établissements. Issouf Agali, directeur départemental de l'éducation de Chirozirine, explique au micro de Ahmed Félan.
Nous sommes là dans le cadre de l'activité donc, relative à la distribution de moustiquaires dans 136 écoles de l'enseignement primaire de la commune de Thierry. Actuellement, nous sommes en train de faire une activité préalable de formation des directeurs. Comment ils vont s'y prendre pour distribuer ces moustiquaires-là? Donc, il y a un certain nombre d'outils qu'ils doivent maîtriser et qu'ils doivent renseigner et qu'ils doivent remonter dans le cadre de la distribution des moustiquaires qui aura lieu du 12 au 13 août 2022. Actuellement, ils sont là, ils vont prendre les moustiquaires pour rejoindre leurs écoles et déjà il y a certains déjà qui ont commencé donc à appeler donc leur CGDS pour qu'ils informent les parents d'élèves. Les parents d'élèves vont enfermer leurs enfants. Et dès demain, ils vont venir dans leurs écoles pour la distribution de ces moustiquaires.
À présent, le magazine de ce journal, le Sida cordifolia, c'est une herbe colonisatrice et envahissante non appréciée par les animaux qui occupe plus de 70% des enclaves pastorales du sud de la région de Maradi. Cette situation très préoccupante, selon le directeur régional de l'élevage, n'est pas sans conséquence sur la santé animale, mais également dans le tonnage de fourrage que la région doit disposer chaque année. Pour Dr Maman Ahmed Soumela, les efforts de l'État et de ses partenaires doivent se poursuivre. Il est au micro de Mohamed Maman.
70% des espaces pastoraux de la région sont colonisés par le sida cordifolia. Ce n'est même pas aujourd'hui, ça date de depuis longtemps. C'est un problème de sécurité alimentaire du bétail parce que vous n'êtes pas sans savoir que les enclaves jouent un rôle important dans l'atténuation des déficits, des crises normalement. Mais du fait de cette colonisation progressive, nous assistons aujourd'hui au fait que ces enclaves-là sont entièrement pour la plupart colonisés par le sida et donc non exploitables pour les besoins alimentaires, les ressources fourragères du cheptel. L'autre impact, c'est que quand le sida s'installe dans un espace, il a tendance à prédominer sur les autres espèces herbacées et même celles qui sont appétées. Les graminées comme les légumineuses se voient anéanties et du coup, on assiste à une disparition, si je peux le dire, en tout cas, des espèces qui sont appétées au profit du sida. Malheureusement, qui n'est pas appété, qui ne présente pas d'avantage pour le cheptel.
Alors, docteur, aujourd'hui, comment faire pour y faire face?
L'État et ses partenaires sont en train de fournir d'énormes efforts. Et il y a eu beaucoup de partenaires qui sont intervenus, qui continuent d'intervenir dans le domaine, car une grande partie des enclaves sont colonisées. Et aussi, un des aspects les plus important, c'est d'associer la recherche agronomique, l'université, dans les efforts de lutte et aussi de recherche de solutions durables. Je le dis parce que quelque part, ce qui est paradoxal, on aurait appris ailleurs que ce sida, à un temps de son stade de développement végétatif, il est appétable. Il peut être utilisé, transformé ailleurs, c'est même dans la pharmacopée pour l'humain. Donc, de repenser comment gérer cette situation.
Est-ce que le fait que ce sida cordifolia a colonisé l'espace peut expliquer quelquefois les déficits fourragers qu'on enregistre?
C'est un facteur prédisposant, c'est un élément qui continue à grever la production de biomasse au niveau de la région. Prenez aujourd'hui le contexte sous-régional. Avec les voisins, c'est un peu difficile la mobilité en pâtit. Et ce que nos transhumants, ce dont ils profitaient dans le temps au sud, aujourd'hui, et du fait de l'insécurité, il leur est difficile d'accéder à certaines zones. Et d'ailleurs, même chez nous, vous avez la forêt de Bobarafi qui est zone pourvue en pâturage de qualité, en quantité, mais du fait de l'insécurité, fait qu'elle est de plus en plus évitée. Au nord, nous avons les effets néfastes des aléas climatiques, aussi la dégradation avancée de l'écosystème. Nous sommes en proie à une situation où nous nous retrouvons avec une prédominance en zone pastorale des légumineuses par rapport aux graminées qu'on connaissait.
Ici prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalungu. Je vous laisse en compagnie d'Alamine Ouachar pour le journal en langue tamashek. Juste après, suivront les journaux en langue fulfulde, Haoussa et Zerma. Et à partir de 18h15, à suivre une rediffusion du forum sur le thème « Hivernage et paludisme au Niger, comment mettre les populations à l'abri de la maladie ?» C'est présenté par Michel Digi.
Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi.
Ouais, raconte, je t'écoute.
Plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalungu.
Sois clair, Rabi, je veux comprendre.
Il suffit juste de composer le 325 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalungu. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo.
Quoi? Et partout au Niger?
Et oui, en plus, l'appel sur le 325 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL.
Oh, merci infiniment. le 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangou au rythme du Niger.